Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié une première fois en 1951, puis profondément repris, « L'homme et la mort » est un essai majeur dans la trajectoire intellectuelle de Edgar Morin. Relevant d'une anthropologie de la mort, il interroge les manières par lesquelles les êtres humains éprouvent, représentent et organisent socialement la finitude. Son point de départ est une tension fondamentale, tout vivant meurt, mais les humains développent des rites, des mythes et des croyances qui refusent ou transforment cette évidence. Morin ne traite donc pas la mort comme un simple fait biologique. Il étudie la peur, le deuil, le meurtre, les sépultures et les imaginaires de au-delà afin de montrer que le rapport à la mort éclaire la culture entière. Le livre traverse des matériaux historiques, religieux et ethnologiques pour dégager deux grandes réponses symboliques, la survie et la renaissance. Il propose aussi un diagnostic sur les sociétés occidentales modernes où les rites perdent de leur force et où la mort tend à devenir moins visible, sans pour autant cesser de structurer les conduites collectives. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la mort comme fait biologique et refus humain de la disparition, Morin organise son enquête autour d'un paradoxe, la mort rapproche les humains des autres vivants. Puisque nul organisme ne peut y échapper, mais elle les en distingue par la conscience, les conduites et les représentations qu'elle suscite. La fin de la vie ne prend pas seulement la forme d'une cessation organique, elle devient pour les humains une rupture intolérable, chargée de douleur, de peur et de scandale. Cette expérience explique la place des sépultures, des soins donnés aux morts et des récits sur une continuité après la disparition corporelle. Le refus de la mort ne signifie pas forcément une ignorance de la réalité. Il désigne plutôt le travail symbolique par lequel une collectivité rend cette réalité pensable et supportable. Les croyances en un au-delà, les figures des ancêtres ou les promesses de résurrection donnent une forme à ce refus. Morin lie ainsi la conscience individuelle de la finitude à une production culturelle durable. La personne sait que son existence est limitée alors que la vie de l'espèce paraît se prolonger au fil des générations. Les rites et les mythes tentent de relier ces deux échelles, celle d'une perte singulière et celle d'une continuité collective. Cette perspective évite de réduire les croyances funéraires à de simples illusions, elle constitue son social, à une contradiction vécue au plus profond de la condition humaine. Deuxièmement, survie et renaissance comme matrice de imaginaire funéraire. Une contribution centrale du livre consiste à mettre en avant deux grands mythes originaires de la mort, la survie et la renaissance. Le premier maintient une forme de continuité de la personne après la mort. Il peut prendre des expressions très différentes selon les traditions, mais son principe est de ne pas laisser la mort avoir le dernier mot sur le défunt. Le second inscrit la disparition dans un cycle de retour, de renouvellement ou de transformation. Il rend la fin compatible avec une nouvelle naissance, avec la régénération de la nature ou avec une recomposition du vivant. Pour Morin, ces schèmes ne sont pas de simples doctrines isolées. Ils structurent des gestes, des récits et des attentes collectives face aux cadavres, au deuil et à la mémoire. Ils permettent de convertir une absence irréversible en une relation encore pensable. Cette analyse donne une place essentielle au mythe, compris comme une organisation de signification plutôt que comme une erreur primitive à écarter. Les sociétés ne répondent pas à la mort par une seule idée abstraite, mais par des ensembles de pratiques et de symboles qui associent le corps, la communauté et le temps, en distinguant survie et renaissance sans les confondre. Morin fournit un cadre comparatif pour comprendre pourquoi les représentations de au-delà et les images du cycle vital peuvent coexister, se compléter ou entrer en tension dans les cultures. Troisièmement, rites funéraires et deuil comme institution contre le désordre de la perte. Le livre souligne que les pratiques entourant la mort ne relèvent pas d'une périphérie cérémonielle. Elles accomplissent une fonction décisive, donner une place aux morts et réorganiser le monde des vivants après la rupture. La dépouille expose la communauté à une réalité troublante, car elle rend visible la disparition d'une personne qui appartenait à un réseau de relations. Les rites funéraires encadrent alors les gestes, les temporalités et les expressions du deuil. Ils peuvent honorer le défunt, marquer sa séparation, maintenir son souvenir ou régler sa nouvelle position parmi les ancêtres selon les univers culturels. Leur importance vient de ce qu'ils transforment une épreuve brute en séquence socialement intelligible. Morin invite ainsi à ne pas opposer trop rapidement émotions personnelles et règles collectives. La douleur a besoin de formes partagées pour être reconnue et la collectivité a besoin de procédures pour intégrer la perte sans se dissoudre dans elle. Les mythes donnent un horizon à ces procédures, tandis que les rites leur donnent une efficacité concrète. Cette articulation aide aussi à comprendre la portée anthropologique des sépultures, elle signale une relation durable entre les vivants et les morts. Dans cette optique, traiter les morts ne revient jamais seulement à gérer un corps. Cela revient à définir la valeur de la personne, les obligations des proches et les conditions de la continuité du groupe. Quatrièmement, horreur, risque et meurtre, la mort ne se limite pas à la fin naturelle. Morin élargit le champ de la réflexion au-delà de la mort attendue ou naturelle. Il examine aussi horreur, risque et meurtre, car ces dimensions révèlent que la mort est liée aux conduites humaines autant qu'à la biologie. La peur du danger oriente les comportements de protection et montre la valeur attribuée à la conservation de soi. Le meurtre introduit une rupture plus radicale, un humain devient la cause volontaire de la mort d'un autre, ce qui soulève des questions de violence, de prohibition et de culpabilité. Dans ces cas, la mort apparaît non comme un destin neutre, mais comme un événement susceptible d'être provoqué, évité ou imputé. Cette approche rend compte de la densité morale et sociale de la finitude. Toute culture doit élaborer des limites concernant la mise à mort, le traitement des victimes et la réparation des atteintes. Le livre ne sépare donc pas les grandes croyances funéraires des réalités de la violence. Il les replace dans une même interrogation sur la vulnérabilité humaine. La mort suscite des représentations de continuité, mais elle impose aussi des règles face au risque et à la destruction. Cette double perspective évite une vision exclusivement religieuse ou exclusivement psychologique. Elle montre que les attitudes devant la mort se manifestent à la fois dans les imaginaires de salut, dans les rites de deuil et dans les normes qui tentent de contenir la violence entre les humains. En dernier lieu, la crise occidentale de la mort et la perte de cadre symbolique partagé, Morin identifie dans les sociétés occidentales modernes une crise de la mort, liée au recul de cadres rituels et de certitudes collectives concernant une survie après le décès. Ce diagnostic ne signifie pas que les individus cessent de souffrir ou de penser à leur mort. Il indique que la mort devient plus difficile à inscrire dans un langage commun et dans des gestes socialement stabilisés. Quand les croyances et les rites perdent leur évidence, la personne endeuillée peut se trouver davantage confrontée à une absence sans médiation. La modernité technique nourrit par ailleurs un désir de maîtrise, prévenir les maladies, prolonger la vie et repousser les limites corporelles. Ces avancées peuvent améliorer les conditions d'existence, mais elles ne suppriment pas la finitude. Morin met ainsi en tension les espoirs de prolongation de la vie et la persistance de menaces collectives de grande ampleur. La réflexion prend une portée contemporaine, une société peut chercher à éloigner la mort de la vie ordinaire tout en restant exposée à des catastrophes sanitaires, écologiques ou guerrières. La force de cette analyse est de refuser deux simplifications, celle qui idéalise les sociétés anciennes et celle qui suppose que le progrès dissout le problème de la mort. Elle invite plutôt à observer ce qui se perd, ce qui se transforme et ce qui demeure nécessaire pour accompagner les vies vivantes devant la disparition. En conclusion, l'homme et la mort intéressera les lecteurs de anthropologie, de sociologie, de philosophie, de psychologie du deuil et de histoire des religions. Il convient aussi à toute personne qui cherche un cadre de réflexion exigeant sur les pratiques funéraires. La croyance en une continuité après la mort et les difficultés modernes à parler de la disparition. Son bénéfice intellectuel principal réside dans le déplacement du regard. La mort ne se réduit ni à un objet médical, ni à une affaire strictement privée. Elle met en jeu les institutions, les mythes, les interdits, les liens familiaux et les formes de mémoire collective. Le lecteur peut ainsi mieux comprendre pourquoi les rites comptent, pourquoi la violence et le risque possèdent une dimension symbolique, et pourquoi une société techniquement avancée ne se libère pas pour autant de la finitude, par rapport à des essais centrés seulement sur une tradition religieuse. Sur une théorie psychologique ou sur les usages contemporains du deuil, le livre se distingue par une ambition transversale. Morin relie la condition biologique des vivants aux constructions imaginaires et sociales qui rendent la mort habitable. Cette ampleur explique la place durable de l'ouvrage dans les études sur la mort. Certaines lectures pourront discuter les limites de ces sources ou la place accordée au point de vue occidental, mais cette réserve ne retire pas sa valeur de grande synthèse. Le livre demeure particulièrement fécond pour penser ensemble le refus de mourir et les dispositifs culturels créés pour faire face à cette impossibilité. Si vous souhaitez soutenir Edgar Morin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.